They're coming.
Gentlemen.
Allez, est-ce que tout le monde est prêt?
Oui.
You appreciate the situation. You're trapped. That's not a threat, it's a fact. We just want you out.
I'm sorry.
It won't end well.
Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'atelier Radio Y. Aujourd'hui, on va parler de Jeremy Saulnier, réalisateur américain. Et pour ça, je suis en compagnie de Valentin. Salut Valentin.
Bien le bonsoir.
Valentin, de la chaîne YouTube Les Chroniques du Cinéphile, c'est bien ça?
Oh là là, qu'est-ce que c'est bien dit.
Ah mais
merci.
Je savais même pas, tu t'es même pas introduit.
Et puis vous venez de l'entendre, c'est Romain.
Bonsoir.
Et Adrien.
Toujours son mot à dire le Romain.
Bon, tout le monde va bien?
Oui.
Ça va très bien.
Vous êtes prêts?
Moyen en ce moment, parce que j'ai eu une petite période un peu.
C'est ouais. Vrai, toujours à chaque, j'ai l'impression.
Je vais vous parler d'un film qui...
Non, on parlera, en fait, tout le monde a vu les films de Jeremy Saulnier, donc on en parlera un petit peu
pas
après.
Pas tous.
Si, vous avez tous vu
en
des
partie.
Films. Non, on n'a pas vu tous les films, mais on a tous vu des films
j'ai
de Jeremy
Saulnier.
J'ai
vu à peu Saulnier. Près 50% des films qu'il a fait.
C'est vrai, 2 sur 4 donc.
Ouais.
Ouais,
c'est ça.
50%,
c'est pas mal déjà.
C'est pas grand chose là du coup.
Oui,
autant quand tu dis j'ai vu les 50% de la filmo de Scorsese, ça passe.
C'est vrai.
Ça fait quand même une vingtaine de films. Autant là, oh, j'ai vu 50% de sa filmo. Ouais.
C'est vrai, bon.
Ça fait 2 films. Hein.
Ça m'a pris une après-midi, j'étais bien.
Et ben écoute, pour en parler, je te laisse la parole, Valentin. C'est
yep.
Ta chronique.
Donc Jeremy Saulnier, moi ma première introduction à Jeremy Saulnier, c'était pour Blue Runes, qui est donc son deuxième long métrage. Avant il avait réalisé Murder Party et quelques courts métrages ainsi que quelques films en tant que directeur de la photographie qui sont assez mystérieux parce que certains il les a fait sous un pseudo, parce que le début de sa carrière reste très sombre à ce réalisateur, on sait pas grand chose. Donc Blue Runes que j'avais découvert comme ça par hasard au 14A, parce que je ne savais pas quoi aller voir. Et donc je me suis dit, eh ben tiens, l'affiche a l'air plutôt cool, donc on va essayer. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était quand même un mec qui au-delà d'avoir une patte, au-delà d'avoir un certain esprit dans son cinéma, était quand même quelqu'un qui investissait avant tout le cinéma de genre. Et à cette époque-là, j'étais à fond dans le cinéma de genre. Je venais de découvrir Fabrice Duwels, qui, on pourra en parler un jour, mais Fabrice Duwels, pour moi, c'est un des mecs qui a forgé le cinéma comme je le vois aujourd'hui. Et Jeremy Saulnier, il avait cette patte un petit peu dans cet esprit-là, avec un côté assez trash, assez dur, mais en même temps très réaliste et très simple. Et Blue Moon, c'est exactement ça. Pour repartir depuis le début, en fait, à la base, Jeremy Saulnier, il fait du cinéma quand même depuis les années 90. Il a commencé avec des courts-métrages dans les années 90. Il a refait un court-métrage en 2004 qui, lui, par contre, a été pas mal primé, ce qui fait qu'il a pu se lancer dans le long-métrage avec Murder Party. Murder Party qui est sorti en France extrêmement tardivement. C'est-à-dire qu'en France, il a fallu qu'il y ait une sortie VOD puis une sortie cinéma pour que le film soit reconnu. Alors qu'aux États-Unis, ça a été un carton à l'époque. Il a fait Sundance, il a fait plein de festivals indépendants. Le film est ressorti avec des gens qui disaient « c'est génial, c'est drôle, c'est complètement fumé, c'est complètement barré ». Et à partir de ce moment-là, il a pu commencer à se construire un petit cercle d'amis autour de lui, avec notamment l'acteur Macon Blair, qui a joué ensuite dans quasiment la totalité de ses longs-métrages, à l'exception du film qui est sorti sur Netflix. Mais Macon Blair qui s'est lancé dans la même foulée avec Jeremy Saulnier. C'est-à-dire que Macon Blair, c'est lui qui joue le rôle principal de Blue Runes, et dans Green Room, c'est celui qui joue le responsable, entre guillemets, du bar de néo-nazi. Mmh. Et Macon Blair, en fait, c'est un mec qui a beaucoup bossé avec Saulnier parce que le scénario de Blue Runes est co-écrit avec Macon Blair, ainsi que celui de Green Room. Et en fait, les deux sont vraiment lancés ensemble, avec en plus deux compositeurs de musique dont j'ai perdu le nom, mais qui le suivent pareil depuis le début de sa carrière. Et Murder Party, donc ça a été leur pied à l'étrier. Et avec Blue Runes, ils ont vraiment réussi, entre guillemets, à conquérir un petit peu le cinéma international, parce qu'à partir de ce moment-là, Blue Runes a vraiment eu une vraie distribution. C'est-à-dire qu'au-delà de faire les festivals, au-delà de réussir à emporter les cœurs de beaucoup de cinéphiles et de la critique, il a eu une vraie distribution, y compris en France. Et à partir de là, ça a commencé. Et en fait, la vraie explosion qu'il y a eu pour Jeremy Saulnier, ça a été Green Room. Green Room qui, malheureusement, a été un peu endeuillé par la mort de son acteur principal qui est décédé, je crois, peu de temps avant la sortie du film en France. Aux États-Unis, ça faisait un petit moment qu'il était sorti, mais peu avant la sortie du film en France, et ben, malheureusement, l'acteur principal était décédé.
Je l'écoute comme.
Mais il est mort de quoi? Parce qu'il était hyper jeune, non?
Il était très très jeune. Je crois que c'est une overdose, malheureusement.
Ok.
Comme,
ce qui va assez bien avec le thème du film.
Ce qui va assez bien avec le thème du film.
Non, bah c'est beau jeu. Hein.
Ça, pour la promo, c'est ouais. Comme ça. Nickel.
Non, mais il y a Paul Walker et puis il y a lui, quoi.
Mais du coup, c'est vraiment ça, en fait, qui a fait, entre guillemets, l'aura de Green Room. C'est-à-dire qu'au début, en fait, ça aurait pu être un film de Jeremy Saulnier comme n'importe quel autre. La seule différence étant qu'il y a tout de même Patrick Stewart dans Green Room. Et ça, ça a fait un gros coup de com' parce que les gens se sont dit « Oh la vache, ce mec-là, il n'y a que des indépendants, mais il y a cet acteur-là en plein milieu de son film. » Donc du coup, c'est ça aussi qui a un petit peu participé. Donc il y a entre guillemets d'un côté la mort de son acteur et de l'autre côté Patrick Stewart qui était dans le film. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment décollé, ce qui fait que Netflix lui a confié « Aucun homme ni Dieu ». Qui fait partie de cette nombreuse série de films Netflix dans lesquels on pourrait ranger Extinction ou dernièrement I.O. qui est sorti, donc c'est-à-dire entre guillemets ce que les gens cataloguent comme étant des mauvaises productions Netflix. C'est-à-dire qu'entre guillemets, aucun homme ni Dieu, si vous allez sur Internet, c'est une misère.
Ah, j'ai vu les commentaires,
c'est voilà. J'ai l'impression que les gens sont un peu durs. Si c'est Netflix, c'est mauvais. Alors que.
Alors,
non.
C'est plus vicieux que ça. C'est qu'en fait, Netflix, aujourd'hui, tu peux catégoriser ça. On pourrait avoir tout un débat là-dessus. Mais en gros, Netflix a deux types de films. Ils ont les bonnes productions, dans lesquelles tu pourrais manger La Balade de Buster Scruggs ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, tu as les petites productions plus indépendantes, dans lesquelles on pourrait ranger I.O. ou il y a eu aussi The Outsider avec Jared Leto. Qui pour moi reste une très bonne prod, mais si tu vas voir les commentaires, c'est genre, bah, t'as d'un côté les bons films et de l'autre côté les mauvais films.
Et genre, Annihilation, tu le mets dans quelle catégorie ?
Ah bah, Annihilation, moi je le mets dans la catégorie hors catégorie, puisque pour moi il aurait dû sortir en salle et c'est un scandale qu'il soit sorti sur Netflix parce qu'en soi, Paramount avait les droits pour la France et il les a cédés au dernier moment parce qu'ils étaient persuadés que le film ne marcherait pas. C'est dommage, il y a Nathalie Portman en tête d'affiche. Mais voilà, Jeremy Saulnier, c'est quelqu'un qui a une carrière vraiment atypique. Là, dernièrement, pour résonner un petit peu dans l'actualité, il a réalisé les deux premiers épisodes de la saison 3 de True Detective, des épisodes qui ont été unanimement salués comme étant visuellement des petites trouvailles et des perles sans nom. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont perdu espoir avec la saison 2 de True Detective. Ils ont trouvé que c'était un petit peu mou du genou et ils n'ont pas trop aimé. Et en fait, sans le vouloir, Jeremy Saulnier a vraiment redonné vie à True Detective. C'est-à-dire que ces deux premiers épisodes, pour beaucoup de gens, ce sont les meilleurs épisodes que la série ait livrés depuis son début. Ce qui veut quand même dire quelque chose, puisque la première saison est reconnue comme étant un chef-d'œuvre, la deuxième comme étant une grosse déception, et du coup, le mec se pointe, il fait les deux premiers épisodes, tout le monde dit que c'est la renaissance de la série et peut-être les deux meilleurs épisodes, parce qu'à partir de ce moment-là, il faut se dire que quand même le mec a quelque chose, qu'il arrive à apporter quelque chose non seulement à son cinéma, mais en plus à ce qu'il essaye de toucher. Et là, pour le moment, du coup, c'est complètement flou ce qu'il va faire par la suite. On ne sait pas. Il y en a certains qui pensent qu'il va réaliser une grosse prod, parce qu'avec True Detective, il a les bons contacts et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire, entre guillemets, un blockbuster ou un film à plus gros budget. Il y en a d'autres qui pensent qu'il a simplement envie de se recueillir avec Macon Blair et de trouver un petit scénario, un petit truc. Enfin, voilà. Ça reste assez flou.
Qui pensent qu'il va violer des enfants, c'est pas pourquoi, il a une petite envie.
Ça reste très vague, tu vois, c'est la suite de sa carrière, je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut, entre guillemets. Après, tant que c'est dans les principes de la loi américaine. Mais voilà, du coup, son cinéma est très éclectique, il brasse énormément de choses. J'ai presque envie de vous lancer dessus. Enfin, il y en a parmi vous qui ont vu 50% de sa filmographie, d'autres qui ont vu 100% de sa filmographie. Mais
j'ai vu un quart.
Voilà, par exemple, Adrien, j'aurais bien envie de te lancer là-dessus. Du coup, t'en penses un petit peu quoi, vu que t'as une vue d'ensemble, toi ?
J'ai commencé avec Murder Party sur Netflix, donc que j'ai pas trouvé très bon. En fait, c'est hyper amateur, mais après, c'est voulu aussi. C'est le style du film qui s'inscrit là-dedans. Je sais pas si vous savez ce que c'est déjà ou pas du tout.
Moi, c'est un pitch complètement surréaliste. C'est un mec qui se retrouve dans une soirée et ça devient une Murder Party. En gros, c'est hyper simple. Et le film est très court, il dure 1h20 à peine.
Le pitch fait très parodie déjà.
Oui, c'est une comédie d'horreur, quoi. Et c'est une comédie d'horreur, mais du coup...
Je m'inscris là,
fait non.
Et il m'a toujours fait peur, entre guillemets, genre Blue Rune et Green Room, vu comment ils étaient vendus, comment ils avaient communiqué dessus. Ça paraissait un peu clair comme type de film, tu vois, tu savais ce que tu allais voir. Murder Party, j'avais l'impression que j'allais voir un boucaqué, quoi, je savais pas du tout. En fait, ça m'a toujours fait peur, j'ai voulu le voir plusieurs fois, et à chaque fois je me disais, ouais, mais je sais pas, ça a l'air trop n'importe quoi, peut-être que ça va pas du tout me plaire, et j'osais pas regarder ce truc. Du coup, verdict.
du coup, moi, il y a vraiment très différent des films qui suivent, à partir de Blue Rune jusqu'au dernier Aucun homme ni Dieu. Ça reste, c'est hyper étonnant que ce soit le même mec qui l'ait fait, tu vois.
Genre, toi, tu as eu le temps de voir Aucun homme ni Dieu. Tu
ouais.
L'as vu ?
Okay. J'ai regardé les 4 et c'est vraiment les 3 derniers qui sont dans une esthétique hyper travaillée, hyper soignée, etc.
On va dire qu'il y a une introduction, en fait, Murder Party, c'est plus dans la veine de ses courts-métrages, en fait, Murder Party. C'est-à-dire que Murder Party, c'est vraiment un film avec un concept drôle et il a envie de construire une situation autour de ça.
Mais c'est ça, pour moi, ça fait très, très projet d'étudiant, tu vois.
C'est ça,
qui fait avec ses potes et c'est tout ce qu'il veut faire. Donc, à partir de là, ça marche bien. Mais j'ai quand même trouvé le film un peu long et pourtant il dure 1h20 dans le sens où il se passe pas grand chose des fois et il pourrait garder un rythme un peu plus soutenu.
Est-ce que c'est drôle?
Parce que c'est en fait, comédie c'est une d'horreur, comédie d'horreur, mais c'est ni trop horreur ni trop comédie, ce qui fait que ça reste trop léger sur tous les plans. Et au final, il n'y a rien qui ressort vraiment. Tu vois, j'ai pas rigolé, c'est pas non plus hyper gore. Enfin, ça peut l'être parfois. Mais voilà, bref, j'étais pas hyper fan de ce film. Par contre, j'ai beaucoup aimé les trois suivants. Après, j'ai poursuivi avec Qu'un homme ni Dieu sur Netflix aussi. Et hyper soigné, hyper beau, les paysages de folie, enfin, tu vois, la tunasse.
Puis-je avoir le pitch de Aucun homme ni Dieu?
Oula, c'est pas facile à résumer.
Alors déjà, en la VO, c'est Hold the Dark.
Ouais. En gros, dans un petit village de l'Alaska, je crois, si je me plante pas, t'as un enfant qui disparaît. Et en fait,
sûrement violé par le réalisateur.
Non, peut-être par des loups, par contre. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, en gros, la mère décide d'appeler un auteur de romans, si je ne me plante pas, qui est spécialisé dans la traque des loups et dans la compréhension de leur langage. Et en fait, elle est persuadée que c'est le seul qui pourra retrouver son enfant. Du coup, le mec se retrouve à devoir traquer un gamin dans la neige, alors que tout le village est persuadé qu'en fait, les loups l'ont embarqué parce que c'était son destin, entre guillemets. Donc, c'est un film qui est très métaphorique, en gros. Okay. Si tu veux, on pourrait ranger Green Room et Blue Runes dans la même catégorie, c'est-à-dire des espèces de films humanistes et extrêmement tranchés dans leur démarche, c'est-à-dire qu'ils veulent simplement confronter l'être humain face à des peurs primaires. The Dark, c'est le film qui est hyper métaphorique, qui prend son temps, qui pose des personnages, une ambiance. Si on devait le comparer à un film, c'est un petit peu comme The Wicker Man. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mec qui n'a rien à foutre dans un village qui débarque et en fait, tout le monde veut sa mort presque. The Wicker Man, l'original, pas le remake.
Pas celui avec Nicolas Cage, ouais, qui était catastrophique.
Et tu vois, moi, j'aime pas du tout les films au rythme lent parce que j'ai du mal et je décroche, mais là, le rythme est hyper lent et pourtant, ça marche hyper bien. Parce qu'il me fait penser aussi, il instaure une ambiance qui marche directement, un peu comme, j'ai plus le nom, mais le film avec Robin Williams et Al Pacino de Nolan.
Insomnia.
Insomnia, exactement, où t'as vraiment une ambiance, il en or, t'as le. Il y a une ambiance où il n'arrive pas à dormir à cause du soleil, etc. Et tu te sens un peu dépaysé. Et là, ça marche très bien aussi là-dessus, sur tous les paysages de l'Alaska, sur l'ambiance qui est très calme, très posée dès le début, dans ce petit village retranché où il ne se passe pas grand-chose. Et là, il y a juste un truc. Et bref, c'est très bien retranscrit et ça met direct dedans, en fait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour...
Je ne l'ai pas vu, mais les loups, c'est des vrais loups ou c'est une métaphore de...
Non, c'est des vrais loups.
De la vie,
il y a vraiment des loups, mais après ça reste. Les loups restent tout de même une métaphore. En gros, le principe, c'est tout le film veut essayer de montrer que les loups sont finalement plus humains que les personnages qui interagissent avec notre héros dans le film. Et à la fin, il y a une très belle image d'ailleurs autour de ça, où en gros, c'est un loup qui vient quasiment sauver le protagoniste, alors que d'autres voulaient le laisser crever.
On va dire que le loup, que l'homme est un loup pour l'homme finalement.
Putain, c'est beau ça.
Il a raté.
T'imagines, c'est le slogan sur l'affiche. Et alors ça, là on parlait de Murder Party, avant ça il a fait deux courts-métrages,
ouais.
Tu les as vus, ils sont bien ?
Oui, je les ai vus, après on sent que c'est des courts-métrages étudiants, hein, très honnêtement, ils ont été faits en 98 et en 2004, il faut savoir que le mec a 42 ans, donc il n'est pas très très vieux, hein. 98 et 2004, il avait 22 et 24 ans. Donc,
en même temps ?
Non, mais il était très jeune, donc en fait, c'était, le premier, c'était vraiment un court-métrage étudiant. Le deuxième, c'était plus un court-métrage pour vendre un petit peu ses concepts de long-métrage. C'est, en gros, le premier, c'est genre, il faut que je finisse mes études. Le deuxième, c'est, il faut que j'ai de l'argent pour faire mon long-métrage.
D'accord, oui.
Donc, tu sens que le premier, c'est vraiment du fun pour du fun. Et le deuxième, c'est beaucoup plus rigoureux dans la démarche pour essayer vraiment de dire, regardez, j'étais talent de directeur de la photo. De,
ah oui, bah, ça n'a rien à voir.
Voilà.
Et oui, après du coup, j'ai regardé Green Room, qui est mon préféré des quatre, je pense.
C'est le préféré de beaucoup de monde. Hein. Green Room est unanimement reconnu comme étant un pur film de genre, et au-delà d'être un pur film de genre, d'être un film qui arrive à instaurer une ambiance, à instaurer un style, à avoir des acteurs qui sont dirigés avec raffinement du début à la fin. Alors, en sachant que Green Room, c'est quand même un pitch qui est un peu loufoque sur le papier, c'est-à-dire que c'est un groupe de rock un peu hardcore, qui va se rendre dans un club pour faire un gig. Et en fait, c'est un club néo-nazi. Donc, paye déjà ton pitch de base. Club néo-nazi dirigé par Patrick Stewart.
J'ai passé
et donc,
un bon
du coup, et en fait, ils assistent au meurtre d'une groupie dans les loges par le groupe qui est supposé passer après eux. Et le pitch de base, c'est uniquement ça. Et en fait, c'est un huis clos. C'est un huis clos où le but, c'est genre, il faut se barrer du club. Et en soi, tu pourrais te dire, bah, ça va être très limité parce que le film dure quand même 1h40, faut tenir le pitch. Et en fait, l'avantage, c'est que Saulnier n'amène la bascule dramatique qu'au bout de 30-40 minutes de film, ce qui fait que tu as ensuite seulement 50 minutes où les mecs vont devoir sortir.
D'accord.
Et donc du coup, le film, à partir de ce moment-là, s'amuse à dynamiter tous les codes du genre, à les montrer partir dans tous les sens, à découvrir des trucs que tu t'attendais pas à voir. C'est vraiment bien foutu. Et puis, le parallèle, c'est qu'on reste pas que enfermé. On suit également les néo-nazis qui vont essayer de rentrer. Alors cette partie là est vraiment à mourir de rire parce que tu vois les mecs élaborer des plans, enfin c'est exceptionnel quoi.
Parce que là on est face à des protagonistes un peu bêtes peut-être.
Alors la plupart du temps chez Jeremy Saulnier, c'est pas des protagonistes bêtes, c'est des protagonistes qui semblent bêtes.
Mais je trouve qu'ils semblent bêtes parce qu'ils sont confrontés à des situations que, genre, c'est des gens un peu comme vous et moi qui d'un coup se font face à des trucs un peu extraordinaires.
C'est plus vicieux que ça en fait. J'ai vraiment l'impression que chez Saulnier, en fait, la plupart du temps, quand il veut placer un protagoniste, il le place comme étant quelqu'un de très qualifié dans son domaine, mais d'inqualifié dans la vie. C'est-à-dire, tu regardes Aucun homme ni Dieu, le mec, c'est une perle pour regarder les loups, pour les comprendre, etc. Mais dès qu'il se retrouve face à un être humain, il est quasiment incapable d'enchaîner un dialogue ou de comprendre ce qui se passe devant lui. Tu regardes Blue Runes, le mec, c'est un clodo. Dans le genre, rejeté de la société, on fait pas pire.
Enfin, c'est
dans...
clodo, et puis après, c'est un comptable. Mais
D'ailleurs, il ressemble à Boyle de Brooklyn Nine-Nine avec, avec sa petite tête rasée. Et
alors, de face, il ressemble à Boyle, et de profil, il ressemble à François Cluzet, j'ai trouvé.
C'est pas faux en plus.
Et de dos, du coup.
De dos, j'ai pas. Non, j'ai pas fait. Et donc moi j'ai vu Blue Runes avec avec Adrien.
Ou comme dit les gens de la Fnac. Ouais,
enfin, ou Blue ruines. Les ruines bleues au Québec.
Et j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé très bien. Et en fait il est en même temps j'ai trouvé très dur et en même temps très léger. C'est-à-dire que il était pas drôle du tout.
Ah bah non.
Mais on aurait pu,
pas débat. Pas débat.
Je pense que on était à deux doigts de mettre de l'humour dans. Tu vois ce que je. Il m'a fait penser un petit peu à God Bless America.
Oui, il est un peu décalé dans son...
Un peu décalé.
Il y a quelques scènes qui sont vraiment bien senties. Enfin, il y a une scène où il chourre une bagnole dans une station-service qui est quand même vraiment à mourir de rire, je trouve. On est quasi proche du moment où tu pourrais,
te marrer. Mais bon, c'est quand même pas drôle. Alors que dans God Bless America, c'est vraiment drôle. T'as vraiment un second degré. Mais là, t'as ce truc, je trouve, qui est un peu sur le fil où en même temps, t'es tendu. Parce qu'on va pas spoiler, mais il y a la première scène, par exemple, dans les toilettes, pour ceux qui ont vu le film, où c'est extrêmement tendu et tu dis qu'est-ce qui va. Enfin, c'est tendu, bref. je sais pas comment le dire sans spoiler, en fait, donc c'est pour ça. Et en même temps, après, quand le film avance, ça devient. Je sais pas, je trouve ça assez léger et dur en même temps. Et puis c'est pareil, un rythme très lent, mais moi ça me va très bien ce genre de...
Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ça se pose au début comme un espèce de film humaniste, genre vraiment le mec, on va le suivre, on va le voir essayer de se débrouiller, et il y a cette bascule qui arrive en milieu de film où limite ça part en revenge movie, quoi. C'est genre le mec va partir en track, et c'est... Enfin, c'est ça le style de Saulnier aussi, c'est qu'il pose des pitchs de base qui peuvent sembler très simples, et qu'au milieu du film, ou même un petit peu avant, il va amener une bascule ou quelque chose qui va faire en sorte que tout le film va pouvoir avoir une seconde lecture pour le spectateur. Et Aucun homme ni Dieu en est parfaitement à démonstration, parce qu'honnêtement, tu ne peux pas te limiter à un seul visionnage. Tu es obligé de le revoir, de le revoir, de le revoir, pour essayer de regarder tous les petits détails qu'il y a dedans. Blue Wounds, tu peux faire la même chose. Green Room, pareil, parce que dans la première partie, on n'a pas l'impression, mais il y a plein de petits détails qui sont disséminés sur le sort des personnages, en arrière-plan, en premier plan, enfin des choses comme ça. Le fait que direct, dès le début, tu les vois, ils se sont crachés, et tu fais « Ah, où est-ce qu'ils sont ?» Ils sont en plein milieu d'un champ de maïs. Ah. Il y a plein de petits trucs comme ça, c'est constamment comme... C'est comme Murder Party, en soi, tu pourrais te dire, le pitch de base, c'est... ça va être un film gore hyper triste. En fait, tu vois le truc, ça commence à déconner, ça sort des vannes, c'est limite, c'est pas un peu beauf en mode prout-prout. Le mec, il crève comme ça. Oh, bah c'est drôle. Puis il y a plein de jeux comme ça constamment dans la filmo de Jeremy Saulnier. C'est pas un mec qui se limite simplement à je vais faire du genre et ça va être très, très sommaire. C'est à chaque fois, je prends des codes et je m'amuse avec pour y amener un petit peu plus.
Bah déjà, comme tu disais, Romain, justement, le fait de mettre un personnage normal dans une situation un peu irréelle, là, pour Blue Rune, c'était un peu le cas. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un gars qui est le gars le plus banal du monde, qui a le visage le plus banal du monde, d'ailleurs, et qui se retrouve, oui, en maître de la vengeance. Du coup, c'était un espèce de contraste un peu bizarre où tu peux presque t'identifier à lui, parce que déjà... Bon, après, chacun jugera, mais on peut juger qu'il a raison de se venger ou pas.
Tu le comprends.
Mais moi, personnellement, je l'ai compris. Mais tu peux le comprendre et tu peux t'identifier à lui, ce qui n'est pas le cas dans d'autres films américains.
C'est l'avantage aussi, c'est que Macon Blair, qui bosse avec Saulnier, il a quand même une gueule qui est très lambda, on va dire.
Ouais, mais tout à fait.
Sur le papier, tu pourrais te dire, ça pourrait être n'importe qui. Il peut jouer un père, il peut jouer un frère, il peut jouer.
Tu le mettais en clodo, ça marchait. Là, tu le mettais avec sa petite chemise de comptable, ça marchait pareil.
Non, mais c'est vrai. Hein.
C'est clair.
Romain, quel film tu as vu, toi?
J'ai vu 50% de ce programme. Du coup, j'ai vu Blue Room et Green Room.
D'accord, donc les deux du même style. Donc.
Ouais. Moi, pour le coup, j'ai préféré Blue Room. Je ne saurais pas vraiment argumenter pourquoi. Déjà, je l'ai vu dans un contexte où je cherchais exactement à regarder ce genre de film-là. Et il m'a... C'est comme si je... C'est comme si je voulais aller au pute et je trouve la pute parfaite. Et là,
c'est vraiment la seule analogie qui t'est venue.
C'est pour ça que ça me fait rire.
Tellement d'autres
que je trouvais pas mieux. Alors qu'il y a des milliers de trucs à dire mieux. Ouais. Genre, ça m'a parfaitement servi. C'est comme... Ah bah voilà, c'est mieux. C'est comme si tu voulais un Big Mac et on te servait un Big Mac.
C'est mieux, c'est mieux.
Et genre, je sais pas, ça parfait. Genre, il y avait une ambiance tellement calme, mais en même temps, ce que je trouve bien là-dedans, c'est que c'est assez lent. C'est assez construit et d'un coup, pim, t'as un truc hyper violent. Et moi, j'adore ça parce que ça, du coup, ça. Les films tout le temps violents, j'aime bien, c'est marrant. Mais tu t'y attends. Alors que là, quand tu sais pas trop ce que tu vas regarder et tout, tu comprends un peu ce qui se passe, tu commences à te faire un portrait du film dans ta tête et d'un coup, t'as une scène hyper violente. Je trouve que ça marche.
Et pourtant, c'est pas un jumpscare.
Non, c'est juste que d'un coup, c'est violent, quoi. Et voilà, il y avait une question d'ambiance. Déjà, l'histoire de base m'a intéressé. Le fait que, comme tu disais, on peut s'identifier un peu plus au personnage. Alors, pour le coup, je me suis plus identifié au personnage de Green Room. Dans le sens, en fait, je sais pas pourquoi, je me suis vraiment imaginé dans leur situation. Genre, j'étais vraiment stressé pour eux. J'étais vraiment genre, putain, mais genre, imagine, il t'arrive ça, c'est un truc de ouf. À la base, ils voulaient juste jouer dans un bar, tu vois.
Ça qui est intéressant, justement, c'est que là où l'identification dans Blue Rune se fait par le biais du personnage en lui-même, parce qu'on se dit, il a une gueule que je connais, je peux l'identifier, donc du coup, je me mets à sa place. Green Room est vraiment dans la fascination sur la situation. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, c'est quoi ces branleurs, là ? Ils savent même pas où ils vont jouer. Ils vont se retrouver dans un café, ils sont même pas payés 20 balles. Et tu les vois, ils débarquent là-dedans, ils se disent, bon, bah, ils vont jouer dans des néo-nazis. Oh là là là, qu'est-ce qui va se passer, là ? C'est quoi ce bordel ? Et d'un seul coup, tu as cette situation qui est contrebalancée, et tu fais, ah, bah, je m'attendais pas à ça. D'accord. Bon, bah, comment ils vont gérer ? Ah !
Mais ce qui est marrant, par contre, ce que j'ai adoré dans Green Room, c'est la tension constante, même avant qu'il se passe ce petit retournement de situation, bah, tu sens, genre, ça pue du cul de ouf. Et tu sais pas pourquoi, et genre, il y a des jeux de regard, il y a des gros plans sur des mecs, il y a des petits ralentis et tout, et c'est tout le temps, t'es genre, putain, il y a un truc hyper louche avec tout ce monde-là, et tu sais pas vraiment ce que ça va être.
Dans Blue Rooms, très peu de dialogue. Est-ce que c'est la même chose dans les autres films ou pas ?
Alors, dans Murder Party, ça parle quand même pas mal. Oui. Green Room, ça parle, mais au final, les dialogues, tu pourrais presque enlever le son, tu t'en fous.
Ouais, je pense que c'est pareil.
Et aucun homme ni Dieu, au final.
Et plus de ce style-là, il y a quand même moins de dialogues.
C'est vrai qu'il y a rarement des gros dialogues chez Jeremy Saulnier.
Et ça met l'ambiance aussi, au final. Parce que justement, tu as 10 minutes de film sans un dialogue. Quand il se passe un truc, tu es surpris parce que tu es dans une espèce d'ambiance justement un peu calme. Tu es vraiment... T'es beaucoup plus concentré finalement quand il n'y a pas de dialogue que l'inverse.
J'avoue.
Et bah du coup, c'était pas mal. Ça change un peu.
The Artist aussi, pas ouf de dialogue.
Elles sont marquées sur des cartons, donc vrai. Ça m'oblige à lire. Moi, c'est pas pratique.
J'aime pas ça.
J'ai mis en VO, enfin bref.
Les gens au cinéma, ils sont quoi, c'est en VOST.
J'aurais bien aimé voir ça en plus, tu sais, des caissiers qui disaient, ah, par contre, c'est en version originale sous-titrée The Artist. Oh non, ça va, moi je vais pas lire. Hein. Ouais. Monsieur, c'est des cartons. Hein. Il va apparaître au milieu du film, vous êtes obligé. Hein.
Alors, Blue Rune, nous on l'a regardé en VF, l'erreur de débutant parce que.
Non, parce qu'on n'a pas eu le choix.
Technique, non, mais juste problème technique de
télé.
C'est
pas trop grave. C'est pas trop grave, honnêtement, la VF.
Ouais, mais en fait, oui, au final.
Bah, vu qu'il y a très peu de dialogue,
c'est pas trop grave.
En fait, c'est ça, au début, on s'est dit, est-ce que, parce que ma télé gérait pas les sous-titres, enfin bref, on s'est dit, bon, on va tester quand même. Bon, on a dû attendre 20 minutes pour savoir si la télé gérait les sous-titres. Ça ne parlait pas. Et au final, on a mis en VF, mais bon, effectivement, le peu de dialogue, ça dérangeait pas. Et puis, la VF était pas dégueulasse non plus. C'était pas génial, mais c'était pas dégueulasse.
J'ai posé une question. Tout le monde me regarde et bah non, j'ai rien à rajouter. Effectivement, vu qu'il y a très peu de sous-titres.
Et en plus, t'as la VF de Earl.
Et il y a la voix de Earl, voilà, dans la série My Name is Earl. Que je me suis mis tout le film à dire, mais putain, c'est la voix de qui, comme d'habitude.
Ouais, le problème de la VF. Tu écoutes un film, tu fais, ah, je connais cette voix.
Ça fait, c'est vrai, ça fait 5 ans qu'on n'a pas regardé de film en VF. On en regarde un seul et ça y est, on connaît les voix et c'est chiant.
Bon, bah ok pour les 4 films. Toi, tu as regardé les films dont il était juste directeur de la photographie ?
Alors honnêtement, c'est des films, des tout petits films indépendants américains qui sont trouvables que sur Internet. Parce qu'en fait, pour te donner un ordre d'idée, c'est vraiment des longs-métrages dont presque les noms sont ignorés. En gros, c'est des films qui s'appellent Sea Girl Run, Putty Hill, Spitten, I Used to Be Darker, et ensuite, il y a Blue Rune. En fait, avant, il ne faisait pas de la photographie pour ses propres films, mais il n'y a que pour Blue Rune, où il a été un peu contraint, parce qu'en fait, il n'y avait personne qui voulait faire la photographie de son film. Et étonnamment, je trouve que c'est son meilleur film, en fait, Blue Rune. parce que c'est un film qui est hyper abouti dans sa démarche, c'est un film qui est intelligent dans ce qu'il veut faire. Parce que Green Room, je trouve que c'est prenant, mais il y a des petits trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des moments de tension qui sont un peu surfaits, ou alors il y a des moments qui tombent un peu à plat, ou il y a des petites scènes où on se dit « ouais, franchement, là, c'est gros, tel personnage, ça ne marche pas ». Alors que Blue Rune, il y a tellement cet attachement qui est constant pour le personnage, parce que tu te dis « putain, c'est un clodo », mais en fait, non. C'est qu'il a choisi d'être comme ça.
Oui, voilà.
C'est pas du tout une obligation. Il pourrait rentrer chez lui et être avec sa femme, mais en fait, il a pas envie.
Oui, ça fait
mais d'ailleurs, dans mes souvenirs, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Dans mes souvenirs, c'est pas exactement ce qui se passe. Genre, à un moment donné, pouf, il est plus clodo.
En fait, c'est qu'il décide de rentrer chez lui parce
que. Il décide de se laver.
Le pire speech.
Il décide de rentrer chez lui parce qu'en fait, sa famille est en danger.
Oui, d'accord.
Et c'est pour ça. Parce que sinon, en fait, il resterait clodo et point barre.
Ah, tout à fait, c'est ça. Et oui, non, ça faisait partie de son nouveau schéma de vie, tout simplement.
Mais donc, du coup, ces films, en tant que directeur de la photographie, on voit sa patte. Parce qu'un directeur de la photographie, même si il est réalisateur, quand il fait de la photographie, tu le reconnais. Je ne sais pas, pour citer un exemple, Roger Deakins, quand tu vois un film qui a comme directeur de la photographie Roger Deakins, tu le vois.
Qu'est-ce qu'il a fait comme film ?
Et il fait beaucoup de films, notamment tous les frères Cohen, les derniers Villeneuve.
Là, je pourrais pas le dire, mais
tous les
de
tous les derniers Villeneuve, il les a fait. Et
Villeneuve, c'est propre.
Le mec a quand même cumulé 49 nominations aux Oscars avant de recevoir un Oscar.
Pour
Blade Runner 2049. Ce qui est quand même vraiment, parce que ça dépasse DiCaprio, quoi. Il y a tout le monde qui était en mode foutage de gueule. C'est-à-dire qu'en gros, il a vraiment fait toutes les plus grandes directions de la photographie de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il a même fait des directions de la photographie pour des films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film. Mais alors lui, ça lui passait sous le nez à chaque fois. Alors que tu regardes un film où c'est Roger Deakins qui fait la photographie, tu le vois. T'as beau avoir le metteur en scène derrière qui rajoute son style, sa patte.
Bah déjà, si tu me dis Blade Runner, effectivement, je pense qu'on voit tous d'autres films qui ressemblent à ça.
Ah, bah oui, non, mais tu regardes, tu peux comparer. Hein, tu regardes 2000, Blade Runner 2049, tu mets No Country for Old Men et Sicario les uns à côté des autres, tu vois les mêmes gimmicks. Les longs travelling qui avancent tout droit vers des directions où tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est impressionnant. Et du coup. Je trouve que Jeremy Sonnier, ça fait le même effet. C'est-à-dire que quand il réalise pas, mais qu'il passe en directeur de la photographie, tu reconnais un petit peu de ses styles. Tu vois de ses gimmicks, tu vois des effets de style, tu te dis « Ah là, il a fait tel plan pour que ça fasse telle coupe au montage. » Ça crève les yeux que s'il avait pu réaliser le film, il l'aurait fait. Et il y a plein de petits trucs comme ça.
Et là, qu'est-ce que tu... Donc là, on n'a aucune info sur ce qu'il va faire, mais... Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse ?
Alors moi personnellement, je verrais bien faire un porno. Un bon gros porno. Mais tu vois, bien réalisé.
Ouais, bien réalisé. Ouais, comme les Coen.
Coen, pareil. J'aimerais bien qu'il réalise un porno juste pour voir. Wes Anderson, pareil. Un petit porno, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne.
Plein de dialogues.
C'est marrant de faire un festival comme ça, que des grands réalisateurs qui réalisent des pornos.
Ça pourrait être très drôle. Et bien l'idée est lancée, moi j'ai envie de dire. Le premier qui arrive à faire ça.
On fait ça.
Une pétition. On lance un Kickstarter et puis.
On lance un Kickstarter. Alors on a une idée de festival. Tous les grands réalisateurs du monde réunis pour faire des pornos.
Avec
que des pornos.
Avec Nathalie Portman.
Nathalie Porno.
Oh, joli.
Non, plus honnêtement, pour Jeremy Sonnier, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait réaliser à l'heure actuelle. Parce qu'en soi, Netflix lui a confié...
Non, mais si tu devais avoir un rêve fou de ce qu'il pourrait réaliser.
Netflix lui a confié une grosse prod déjà avec Aucun homme ni Dieu, et ça a un petit peu déçu beaucoup de monde. Parce que je pense que c'était un film qui lui tenait à cœur. Après avoir, personnellement, moi j'aimerais bien le voir réaliser une vraie grosse prod hollywoodienne, où peut-être il serait que réalisateur et voir ce qu'il apporte en termes d'esthétique. Mm-hmm. Je ne pense pas que ça arrivera, parce que ça crève les yeux que le mec veut rester dans une démarche indépendante et que toute sa carrière, ça restera
ça
comme
ça. Ça arrivera, mais peut-être dans très longtemps.
Ça arrivera peut-être dans très longtemps, mais je pense qu'il va rester à ce stade-là vraiment à faire du cinéma indépendant et à tenter au contraire d'aller piocher dans des sujets un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Par contre, ça m'étonnerait pas que son prochain film, il y ait vraiment une grosse star en tête d'affiche, que ça reste un film indépendant, mais qu'il y ait une grosse star qui se pointe comme ça et qui permette d'avoir au film un certain aura.
On a des infos d'ailleurs sur le prochain film ?
Rien du tout. Depuis True Detective, il a fait que ça. Donc, vu que les épisodes en plus viennent tout juste de sortir.
Ils sont sortis là ?
Ouais.
Waouh.
C'est.
Ok.
Oui, non, pour le Aucun homme ni Dieu, c'est pas lui qui l'a écrit justement, c'est ça ?
Si, je crois qu'il l'a écrit, mais c'est adapté d'un roman.
Mais il me semble qu'il l'a réalisé, mais pas écrit justement, et que c'est le seul des quatre films qui. C'est le seul des quatre films, peut-être que j'ai de la merde aussi, hein, mais c'est le seul des quatre films qu'il n'a pas écrit.
Ouais, c'est bien possible. Je t'avoue que je sais plus, j'ai plus en tête.
Je vais regarder ça.
Ouais, c'est bien possible. Enfin, ça avait quand même un petit peu de son style en fait. En
ah oui, non, mais carrément.
C'est-à-dire que c'est pas lui qui l'avait écrit, mais ça. Je me demande, c'est pas Macon Blair justement qui l'a écrit. À vérifier, mais je crois que c'est Macon Blair qui a écrit le scénario du.
Oui, donc ça reste dans le.
Ouais.
Et Macon Blair, à part avec Jeremy Sonnier, justement, il a fait autre chose.
Il fait quelques films, mais c'est plus en acteur secondaire. Hein, tu sais, en dehors de Jeremy Sonnier, il n'y a pas grand monde qui veut le recruter, alors que pourtant, c'est un acteur qui est très talentueux.
Bah, moi, ouais, je l'ai trouvé bien. Ouais.
Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, en plus, ces deux mecs-là, Jeremy Sonnier et Macon Blair, sont très actifs sur Twitter. Ils ont des comptes, et c'est parmi les réalisateurs que je suis sur Twitter qui sont les plus actifs dans le genre. c'est vraiment des mecs constamment ils balancent des trucs. Non. Franchement, pour le coup, quand on regarde sur Twitter, il y a très peu de réals ou d'acteurs qui sont vraiment hyper connectés. Et eux, si vous suivez leur compte Twitter ou leur compte perso, c'est vraiment, il y a plein d'informations qui circulent et les mecs, en plus, partagent des trucs, ils te font découvrir des films. C'est vraiment cool. Hein. Pour le coup, dans le genre compte Twitter à suivre, c'est de là.
Ben, c'est noté. J'irai.
T'iras.
Ou tu iras. Qu'importe la voix.
Ok, Valentin, est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur Jérémy Saulnier ?
Pour moi, tout est dit sur ce réalisateur extrêmement talentueux qu'il faut suivre et dont on a hâte de voir la suite de sa carrière.
Donc si vous le voulez, déjà, vous avez Netflix avec...
Murder Party et Aucun homme ni Dieu. Ça ne m'étonnerait pas que Blue Rune et Green Room ne tardent pas trop à arriver.
Alors après, petit disclaimer pour les gens, c'est deux films extrêmement différents, donc si l'un ne vous plaît pas, peut-être essayez l'autre quand même, parce que là, ils ont mis les deux les plus... Enfin,
oui,
les plus opposés.
Ouais, vous n'arrêtez pas Murder Party si c'est le premier, parce qu'il est vraiment pas représentatif de ce que fait le Real, et par contre les autres sont plus dans un même
le Real, parce que je le vois bien, c'est pas
le Real Madrid,
oui.
On va tout faire. Oui, c'est pas représentatif, et donc par contre les trois suivants s'inscrivent plus dans le même style, ne serait-ce que dans l'esthétique qu'ils partagent, etc.
Mais je pense qu'après Netflix vont regarder le nombre de vues sur chaque film, et puis si ça fonctionne bien, ils mettront les deux autres sans doute.
Après, des fois, ils mettent des films comme ça juste parce qu'ils ont mis deux films d'un réel et ils se disent ah bah tiens, faut vous faire découvrir les films. Je pense qu'ils sont en train d'acquérir en fait au fur et à mesure les droits.
Je sais pas comment ça marche, mais je pense qu'en gros, ils doivent avoir des contrats PAC. Je pense
Murder Party, c'était le plus facile à acquérir, et là, à mon
Season
avis,
Pass Jérémy Saulnier.
Les deux autres, ça va être un petit peu plus simple. Non mais c'est ça. Season Pass Jérémy Saulnier.
Il y a des DLC. Chaque film, c'est un DLC maintenant. Ok, Romain et Adrien, est-ce que vous aviez des choses à rajouter ?
Je voulais juste ajouter qu'il y a le fossoyeur du film qui a fait une très belle vidéo à la sortie de Green Room sur L'Oréal et tout, c'était intéressant.
C'est vrai.
Écoute, bah, je mettrai le lien dans la description du podcast. Adrien, tu avais quelque chose à rajouter ?
Non.
Et bah, Valentin, est-ce que je te laisse parler de ta chaîne ?
Oh.
Ah, s'il te plaît, parce que je connais pas.
D'accord. Donc les chroniques du cinéphile ou LCDC tout récemment renommée. C'est une chaîne en gros où je parle de cinéma, mais vraiment de tout. Je sors deux vidéos par jour.
Oui, j'ai vu, c'est très prolifique. Ouais, t'as plein de vidéos.
Et t'en parles comme là, parce que là, c'était quand même vachement intéressant.
Alors, j'en parle à peu près comme là, ouais. Okay, ouais, j'en parle génial. À peu près comme là. Des fois, je rentre un petit peu plus dans le détail et des fois, un petit peu moins.
Des fois, il met les pieds dans le plat aussi, il n'hésite pas.
Attends, tu veux dire qu'il trempe sa plume dans le vitriol ? Ah bah. C'est ce que tu veux dire.
Non mais voilà, en gros, ça parle de cinéma. J'essaye de rarement en parler seul. Si j'en parle seul, j'essaye de rendre ça un minimum intéressant pour que les gens s'ennuient pas. Mais voilà, en gros... Ça Alors, suit son cours.
J'ai regardé, j'étais très déçu. T'avais comment
c'est nul en fait, intéressant. C'est
nul. J'ai regardé, j'étais très déçu. Ah bah d'accord, je m'en vais dans ce cas-là.
Non, tu as commencé une série qui allie le jeu vidéo et le cinéma. Et j'ai vu qu'il n'y avait que 4 vidéos.
Ouais.
Autant que les films de Jérémy Saulnier.
5 s'il te plaît.
5. Ah, 5. J'ai pas vu la dernière.
Il y en a 5.
5 vidéos, mais j'ai vu que la dernière datait un peu. Alors je me suis dit, est-ce que c'est terminé ?
En gros, c'est en suspens parce que le mec avec qui je fais ça vient tout juste d'arriver sur Nantes. Avant, il habitait sur Tours comme moi, à l'époque où on faisait cette émission. Et donc, du coup, on est en train de voir pour potentiellement essayer de remettre ça en route. Mais c'est un petit peu compliqué parce qu'étant donné qu'à l'époque, on était encore étudiant ou qu'on n'avait pas de job et que là, maintenant, on est un peu pris. C'est un petit peu compliqué. Et puis en plus, il faut qu'on rebosse tout un partenariat avec Gamecash parce qu'à l'époque, on avait un contrat avec Gamecash qui nous permettait de pouvoir tourner dans leurs locaux et de pouvoir un petit peu leur emprunter des jeux quand on en avait besoin. Donc c'était un peu pratique. Donc là, on va voir. Ouais. Ça dépendra de nos emplois du temps. Mais moi, perso, j'aimerais bien relancer ça.
Bah oui, c'est pas mal. C'est, ouais. Et le premier numéro, il met en parallèle Drive et Hotline Miami.
Oui, tout à fait.
C'est bizarre parce que pourtant, ils n'ont rien à voir.
En fait, le concept, c'était qu'à chaque fois, on essayait de mettre en rapport un film et un jeu vidéo, mais vraiment avec pas forcément genre la même histoire ou le même concept de base, genre pas les jeux Harry Potter et les films Harry Potter. C'était vraiment Drive et Hotline Miami, Starship Troopers et Halo. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? Kill Bill et No More Heroes. Enfin, on essayait vraiment de trouver des jeux qui avaient un petit rapport ou une petite connotation l'un avec l'autre.
Et pas forcément des gros jeux en plus.
Voilà,
et pas
forcément. Moi, j'aurais mis John Wick pour Hotline Miami.
Ah ouais ?
Oui, c'est possible.
Bah ouais,
figure-toi. Avec Drive à l'époque, était plus parlant en termes d'esthétique et surtout de musique.
Surtout que les développeurs de Hotline Miami ont dit qu'ils avaient trouvé l'idée sur une scène de Drive. En fait.
Oui, donc voilà.
Ah oui, d'accord.
Ouais, t'as d'autres commentaires à faire, Adrien ou pas ?
Non, et voilà, moi je donne mon avis après si on le veut pas.
Ah bah bon, et ben écoute, merci Valentin. Je mettrai dans la description du podcast tous les liens qu'on a donnés aujourd'hui les films, sur le fossoyeur de films, c'est ça ?
Tout à fait.
Et sur la chaîne de Valentin. Merci Romain et Adrien. Julien.
Merci de l'invite.
Oh, bah, tu sais.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une ou deux semaines pour l'émission Radio Y. Je dirais ça à chaque émission, dans une ou deux semaines, comme ça.
Ça t'engage à rien.
Comme ça, ça ne m'engage à rien. Et on se dit à bientôt. Allez, salut.
Et on se quitte avec un camion qui démarre.
Après la clé du camion qui démarre, tu mets la musique de C'est pas sorcier.
On va faire le générique de fin. Je marche dans la forêt. Oh, une voiture. Heureusement que c'est pas en direct, hein. C'est bien, c'est bien ça. Hein.